Famille, c'est parti, j'aime vous retrouver chaque matin pour cette troisième heure de Grande Matinale où on prend un peu plus le large et un peu plus le temps. Charline Vanhoenacker nous rejoindra à 9h45 pour nous dire comment on fait pour faire de l'humour dans le climat actuel. Pas évident. Daphné Burki nous rejoindra aussi avec sa nouvelle tête, la chanteuse Blue Samu. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Cette semaine, on a beaucoup parlé de Groupuscule Ultra, de LFI et de Lyon. Tiens, une semaine en France sans Donald Trump. Je me pose la question. Est-ce que depuis le retour de Trump aux affaires, les États-Unis occupent une place surdimensionnée dans notre actualité? Est-ce qu'on en parle trop? On en discute tout à l'heure. Mais à tout de suite, c'est le Grand Portrait.
France Inter. La Grande Matinale. Sonia De Villers.
Plus ça va, plus Philippe Besson ment. Plus ça va, plus Philippe Besson puise dans le vrai de ce qu'il a vécu. Maître du mensonge dans sa propre vie permet de raconter des histoires et de les rendre universelles. Ça marche. Une pension en Italie fait un énorme carton en librairie. Alors, méfiez-vous des titres de Philippe Besson. Ils sonnent un brin désuet. Ils convoquent plein de cartes postales et ils ne disent jamais la peur et le chagrin qui rampent en silence dans nos photos de vacances. Alors, après l'été 1984, celui de l'écrivain adolescent, voici l'été 1964. La mère de l'écrivain était alors adolescente. Voici ce qui s'y est joué. Si c'est vrai, c'est absolument déterminant dans la vie de celui qui est devenu Philippe Besson, homosexuel et romancier. Si c'est faux, ça fait un bon roman. Portrait numéro 93. Bonjour Philippe Besson.
Bonjour Sonia De Villers.
Vous êtes arrivé de Bordeaux, vous vivez à Bordeaux, vous êtes passé hier soir juste avant la crue, juste avant que la Garonne ne déborde.
Oui, oui. J'ai une pensée très affectueuse pour tous mes camarades bordelais, bordelaises qui effectivement vont voir le fleuve déborder aujourd'hui et qui sont un peu confinés. Ouais.
Voilà, sortez vos palmes, vos canottes et vos rames. Une pension en Italie est parue chez Julliard, votre éditeur depuis très longtemps. C'est votre 25e roman et c'est un très gros succès en librairie, je l'ai dit. La marque de la voiture, dans laquelle la famille s'embarque pour partir en Italie. Dans vos romans, il y a toujours la marque de la voiture. Pourquoi est-ce qu'il y a la marque de la voiture? Parce que c'est un marqueur de nos souvenirs familiaux.
Oui, c'est ça, c'est un marqueur d'une époque et de nos souvenirs. Nos souvenirs, c'est toujours, c'est jamais des généralités, c'est jamais des grandes choses, c'est toujours des détails. Moi, je suis extrêmement attaché aux détails.
C'est la question que j'allais vous poser, parce que dans le livre, la mère est attachée aux détails, très attachée aux détails, votre mère.
Oui.
Mais ces détails, ils sont vrais, ces détails? Ou c'est vraiment là qu'on prend la main dans le sac, le romancier en train de vouloir faire vrai?
Alors, en fait, moi, j'aime depuis longtemps être sur cette ligne de crête entre la fiction et l'autofiction, entre le récit et l'imagination. J'emprunte au moins autant à mes souvenirs que à mon cerveau malade et imaginatif. Ce livre-là n'échappe pas à ce principe. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre-là beaucoup de choses qui relèvent de ma vérité intime, de mon histoire personnelle, de mon histoire familiale. Et il y a beaucoup d'autres choses qui relèvent de la pure invention, de la pure fiction. Parce que je crois que ce qui est important, c'est que pour que ça rentre dans le champ de la littérature, une histoire, il faut que ça déborde son propre cadre, il faut que ça déborde notre nombril, le cadre du récit. Il faut que justement on écrive, comme le dit le narrateur dans le livre, comme on raconte une histoire. Donc moi j'aime raconter des histoires. Et j'avais envie qu'à la fin de ce livre, les gens se disent « c'est trop romanesque pour être vrai, mais en même temps c'est trop intime pour avoir été inventé ». Et donc, vous vous ferez votre idée.
Le livre est dédié à votre mère, qui est morte il y a quelques années.
Non, ma mère n'est pas morte. Ça, c'est une chose avec laquelle je vous égare. Et oui, c'est extraordinaire. Mais non, ma mère va très très bien.
Vous vous êtes autorisé à l'écrire?
Mais
alors...
bien sûr, mais ça c'est un jeu que extraordinaire.
Je me suis fait avoir.
Et vous êtes fait avoir. Mais bien sûr. Mais parce qu'en fait, l'idée c'est que je lui ai dit cela, d'ailleurs, quand j'ai écrit le livre. Je lui ai dit, tu sais maman, dans ce livre-là, je te fais mourir. Elle a éclaté de rire, parce que elle a déjà été un personnage d'autres de mes livres, et donc je m'amuse avec ça. Elle a éclaté de rire, elle me dit décidément tu m'auras tout fait, et en même temps évidemment elle était très émue par ce livre-là, parce que ça la renvoie à des choses qui tiennent à nous deux, à notre rapport à elle et à moi, bien sûr.
parce qu'évidemment, vous êtes un vampire. Enfin, forcément, puisque vous avez choisi, et ça c'est vraiment un choix littéraire et un choix dans la vie, de puiser dans ce vécu et dans ces souvenirs. Vous mettez beaucoup de vous-même, mais vous mettez forcément beaucoup des autres.
Oui.
Donc il y a forcément une forme d'appréhension de tous ceux qui vivent avec vous, qui vous entourent, qui ont partagé des morceaux de votre vie, de se voir aspirer dans vos romans.
Oui, mais en même temps, bien sûr, mais en même temps...
mal vécu, ce qui peut être violent.
Ça pourrait l'être si je décidais de régler des comptes. Mais moi, je ne règle pas de comptes. En fait, quand je parle des gens qui ont été dans ma vie, ou sont dans ma vie, dans mes livres, dans mes romans, je le fais pour leur rendre hommage, pour leur dire combien je les aime. Je ne règle aucun compte. J'ai souvent dit cela, j'ai écrit beaucoup autour de mes disparus, parce que la vie a voulu, et la génération à laquelle j'appartiens, ont fait que beaucoup de mes amis, de mes amants, de mes amoureux, ont eu 25 ans et n'en ont jamais eu 26 ou 27. Parce que le sida, parce que j'appartiens effectivement à cette génération qui a eu 20 ans à la fin des années 80, début des années 90, et autour de moi, les gens disparaissaient. Et pendant très longtemps, je n'ai eu, pour avoir un dialogue avec eux, que la possibilité d'aller dans un cimetière et de me pencher sur leur tombe. Et puis je me suis dit, je vais écrire des livres pour parler avec eux, pour dialoguer avec ces disparus, pour faire qu'ils soient encore vivants et encore présents. Et pour dire qu'ils ont compté, parce que les morts, avant d'être des morts, ils ont été des vivants. Et donc il faut qu'ils soient là. Quand j'écris Arrête avec tes mensonges, je veux parler de Thomas Andrieux qui décide de sauter la vie, parce que je dis, avant de sauter la vie, il a été ce merveilleux
amoureux quand vous étiez en terminale.
Absolument. Et quand j'écris sur les vivants, c'est pour leur dire que je les aime. Parce que...
Je vous entends et je ne vous crois pas complètement.
Alors, je termine juste
sur ça. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que quand on écrit un livre, on l'écrit pour soi. On ne l'écrit pas pour les autres, on l'écrit pour soi. C'est quand même un acte d'affirmation de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. Il y a quand même quelque chose de profondément égoïste, voire égotiste, à dire Philippe Besson, une pension en Italie, c'est moi qui vous raconte. Mon grand-père, qui a choisi de vivre son homosexualité, qui a plaqué toute la famille et qui s'est fait plaquer par toute la famille, c'est moi qui vous le raconte. Je prends cette histoire et je la mets à mon compte.
Oui, bien sûr, on écrit à partir de son intimité. C'est impossible d'écrire en faisant abstraction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de ce dont on est l'héritier, des histoires dont on est l'héritier lointain. Donc évidemment que ça part de soi, ça participe de soi. Le premier geste, c'est de raconter quelque chose qui émane de nos propres sentiments, sensations, souvenirs, etc. Mais après, le geste, c'est quand même toujours pour moi un geste de générosité qui est d'aller vers les autres et de parler de cela. Quand j'écris une pension en Italie, bien sûr que je parle de moi, mais je parle de lui, de Paul. Quand j'écris une pension en Italie, je parle d'elle, Suzanne, ma mère. Et je veux dire combien je l'aime et combien elle compte dans ma vie, bien sûr, et combien elle a déterminé l'homme que je suis aujourd'hui. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'elle m'a poussé vers la vie, vers la sensibilité, vers les sentiments, et que bien que venant d'une enfance de silence où on n'était pas toujours très à l'aise avec les sentiments parce qu'on était extraordinairement pudique, c'est elle qui m'a donné des autorisations, qui m'a dit « tu peux y aller mon fils, ce chemin c'est le tien ». Et donc c'est aussi ça que je fais, je rends hommage à ceux qui ont permis que je sois ce que je suis.
La vérité me fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me.
Vous avez beaucoup écrit sur vos disparus, Philippe Besson. Dans tous vos livres, il y a une disparition. Et dans La pension en Italie, il y a aussi une forme de disparition, une double disparition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les disparitions de vos romans, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a une absence, corps et bien. Il y a la difficulté à expliquer, l'absence, corps et bien. Et derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a la mort qui rôde. Et puis, il y a le secret. C'est une forme aussi de disparition.
Ouais.
Voilà. Ce grand-père qui, au cours de vacances familiales, ne découvre pas son homosexualité, mais en réalité décide de la vivre. Il va disparaître corps et bien de la vie de sa femme, de la vie de ses filles.
Oui. Oui, il disparaît de l'album de famille. C'est un personnage fascinant pour ça, Paul Viersac. C'est quelqu'un qui, effectivement, a compris très jeune vers où lui le portaient ses inclinations, ses désirs secrets, mais parce qu'il était le produit de son éducation et de son époque, il a décidé de se censurer, de se taire, de s'enfermer dans le déni, dans le silence, dans la honte pendant de très nombreuses années, et d'essayer de faire famille. Donc il épouse Gabi et il le fait avec une grande sincérité, parce qu'il la voit, cette petite postière-là, et elle a une autorité, un charme fou, et elle va vers elle. Et puis ils ont des enfants, ils ont deux filles, ils font famille, et il y croit, il a envie d'y croire à cette vie-là, normée, possible, conventionnelle, mais peut-être heureuse. Qui sait ? Et puis, dans cet été 64, en Italie, oui, en Toscane, dans cette pension, eh bien, cette rencontre qui change tout et qui le met face à lui-même et qui lui fait comprendre que c'est peut-être fini le temps des sacrifices et le temps du silence et que peut-être il faut qu'il vive ce qu'il est et qu'il décide d'être lui-même. Et ça pose la question du quel prix on est prêt à payer pour être soi-même. Mmh. Et le prix qu'il va payer, lui, c'est effectivement l'explosion de la famille, le fait d'être séparé de sa femme et de ses filles.
De disparaître.
Mais est-ce que le prix à payer pour ne pas être soi-même n'aurait pas été plus grand?
C'est exactement la question que j'allais vous poser, Philippe Besson, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux types de remords dans la vie. Il y a ne pas avoir agi, comme on aurait dû agir, ça s'appelle la culpabilité, et il y a aussi ne pas avoir vécu ce qu'on aurait pu vivre.
Oui.
Voilà. Il y a deux types de remords.
Oui, absolument.
Dans la vie.
Et moi, je crois qu'on est souvent confrontés les uns et les autres à ces situations-là où la vie peut nous emmener dans une direction ou dans une autre. J'évoque à un moment sur la route de Madison dans le livre et cette scène que tout le monde a sans doute en tête si on a vu le film, qui est la scène de la fin où Meryl Streep a la main sur la poignée de la portière de la voiture et qu'elle a le choix entre rejoindre son amant joué par Clint Eastwood et donc choisir l'aventure, le romantisme, la folie, l'affranchissement, l'émancipation ou rester dans la voiture et ça veut dire rester avec son mari dans une vie conventionnelle, voilà, prévisible mais rassurante. Et dans les deux cas, elle va perdre quelque chose, elle va gagner ou perdre quelque chose. Mais en tout cas, elle va se dire je ne serai pas cette autre femme, les possibles se referment pour moi. Et c'est le choix auquel est confronté Paul à un moment, c'est qu'il se dit qu'est-ce que je vais regretter le plus, quel est le remords ou la culpabilité qui sera la plus dévorante si je continue.
Voilà. Donc il est bien question de remords et de culpabilité. Quand je disais qu'il faut se méfier des titres de Philippe Besson, j'ai raison.
Oui, j'essaie de faire des titres qui sont souvent un peu, comment on dit ?
Vintage.
Oui, vintage, ça me va. Moi, j'aime bien. Une pension en Italie.
C'est ça.
En même temps, le titre est, pour le coup, une promesse que j'essaie de tenir. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans une pension en Italie. Et la couverture magnifique faite par Mathieu Persan, qui nous montre ses persiennes ouvertes sur une campagne toscane avec derrière les allées de cyprès, les champs d'oliviers et la promesse de l'été, est véritable. Mais en même temps, évidemment, derrière cette douceur un peu vintage ou surannée du titre, il y a la violence des sentiments, il y a la radicalité des choix,
il y a la France d'avant la dépénalisation.
Oui, bien sûr.
Il faut raconter ça. Il y a la France d'avant la dépénalisation, c'est-à-dire d'avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, d'avant la loi votée en 82.
Oui, parce que quand on pense à ces années 60, aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit c'est merveilleux, c'était les années de l'insouciance, de l'émancipation. On voit Johnny, Sylvie, Françoise Hardy, on voit en Italie la Dolce Vita, Fellini, Vittorio De Sica, Dino Rizzi.
Bien sûr. Les guet-apens, les rixes, les passages à tabac, les descentes de flics.
Oui, c'est ça.
Les passages en tôle.
Il faut se souvenir que l'homosexualité était pénalisée, elle avait d'ailleurs été encore plus pénalisée sous Pétain en France, et qu'effectivement vous pouviez finir dans un fourgon de gendarmerie, passer devant un tribunal, jeté en prison parce que vous étiez homosexuel. Je rappelle aussi, parce qu'on a quand même oublié, c'est que jusqu'en 1990, l'homosexualité était rangée parmi les maladies mentales par l'OMS. D'accord ? Donc, voilà où on se trouve. Et donc, on est dans cette époque où on ne peut pas dire on est corseté, on fait très attention, et si on prend le risque d'affirmer une différence, une déviance par rapport à la norme, par rapport à ce qui est communément admis, effectivement, on risque la tôle, mais on risque aussi évidemment l'opprobre. Et c'est ça à quoi est confronté Paul Viersac.
Philippe Besson, vous avez vraiment eu un grand-père homosexuel ?
Mais ça, je ne répondrai pas à la question, ça ramène à notre conversation du début. Je veux laisser chacun penser ce qu'il veut. Moi, je crois en tout cas que je suis là où je suis, pas par hasard. Et que je me sens héritier d'une histoire qui s'est jouée avant moi. Et donc, je pense à ceux-là qui étaient, à ces hommes, d'une manière générale, pas seulement Paul, mais à ces hommes qui ont ouvert un chemin où j'ai pu m'engager.
Je vous fais écouter la voix de Marguerite Duras.
Ah, ça c'est une bonne nouvelle.
Dans quelques jours, ce sera les 30 ans de la mort.
De sa disparition.
Ouais. De sa disparition. Vous venez de dire de sa disparition.
Oui.
Vous faites partie de ces Français qui ne disent pas mort, mais disparu, qui ne disent pas mourir, mais disparaître.
Oui. Ouais. Vous savez, en fait, c'est curieux, pardon, je fais une petite insiste.
Ça s'appelle un euphémisme.
Oui, en fait, c'est drôle parce qu'un jour, on m'a, il n'y a pas très longtemps de ça, on m'a diagnostiqué une maladie dont on sait qu'elle peut mal finir. Et on me dit, est-ce que vous avez pensé à votre mort à ce moment-là ? Et j'ai dit, j'ai pensé à ma disparition, j'ai pensé à mon extinction. Je n'arrivais pas à dire le mot mort. Et encore aujourd'hui, je ne le dis pas, parce que la menace s'est éloignée, la guérison n'est pas là. Vous savez, je suis dans cette phase qu'on appelle la rémission.
Ouais.
C'est aussi un mot terrible, le mot rémission.
Ouais.
C'est de se dire, vous êtes un peu
suspendu.
Sorti d'affaire, mais vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça peut retomber à un moment ou un autre. Alors, il faut faire attention aux mots, en fait. Moi, je fais très attention aux mots.
Donc
oui, j'ai un petit peu de mal avec le mot mort, et donc je préfère dire disparition ou effacement ou des choses comme ça.
Ouais.
Voilà, c'est trop brutal et trop frontal pour moi.
Voilà, dit l'écrivain qui, de roman en roman, brode le thème de la disparition. Alors elle en dirait quoi, Marguerite Duras ?
Moi, je n'ai jamais vécu comme ça, comme je l'ai vécu enfant, après. Avec cette douleur essentielle d'avoir quitté ma mère, je n'ai pas pu m'y habituer. Pas longtemps, j'ai désiré revenir avec elle, tellement le lien était fort. Et c'est sûr que c'est là qu'on apprend à partir. C'est de là qu'il faut foutre le camp. C'est empoisonner une famille. C'est empoisonner par les préférences inévitables qui s'y établissent, qui font le malheur de certains enfants. C'est sûr, ça.
Oui, elle sait de quoi elle parle, parce que effectivement, le grand frère était le frère préféré, et le petit frère qu'elle a tellement cherché à protéger, Marguerite Duras, et qu'elle n'a pas réussi à protéger, puisqu'il a fini par disparaître lui aussi. Et cette famille très dysfonctionnelle, avec cette mère folle qui luttait grâce à un barrage contre le Pacifique, en espérant la grandeur et en la perdant.
Les 30 ans de la mort de Marguerite Duras, Philippe Besson, c'est les 30 ans, en réalité, de votre adolescence.
Oui, moi,
d'une certaine manière. C'est-à-dire, je ne sais pas si on imagine la puissance, la grandeur, la star absolue de la figure de Marguerite Duras dans les années 80, quand vous étiez jeune, quand vous aviez envie d'écrire, quand vous viviez vos premiers émois homosexuels.
Oui.
Elle était une figure absolument dominante.
Absolument incroyable. Moi, j'ai 17 ans quand elle publie L'Amant. Et j'entre dans une librairie, la librairie Mola à Bordeaux, et je prends le livre et je sors avec le livre et je commence là. Et vous savez, dans le début de L'Amant, elle raconte qu'elle est une vieille femme avec un visage trié de rides et que tout le monde dit qu'elle était belle quand elle était jeune, mais qu'elle, elle préfère son visage trié de rides. Et puis, tout d'un coup, en une incise, en un saut de ligne, elle dit « Que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong, la traversée dure longtemps. » Et on est en Indochine, 60 ans plus tôt, avec cette jeune fille sur le bac qui va rencontrer l'amant indochinois dans sa bagnole de luxe noire, scintillante. Et je me suis dit ça c'est une écrivaine, c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire, c'est quelqu'un qui a une voix, c'est quelqu'un où quasiment le son précède le sens. On entend quelque chose avant de le comprendre et on est emporté. Et moi, elle m'a donné ce goût-là d'écrire des livres longtemps après.
Elle vous a donné le goût de dire la mère, c'est cette jeune fille-là.
Oui, oui.
De dire le père.
Enfin, c'est comme ça, bien sûr.
C'est ça,
le livre,
comme
le livre,
ça
une portion d'Italie commence comme ça, en disant la mère, c'est cette jeune fille-là, l'été de la Toscane, devant la photo.
Ça, c'est Marguerite Duras.
Oui, bien sûr.
Et même une pension en Italie, c'est déjà un titre, façon Duras. On imagine Anne-Marie Streeters, bien
absolument.
Habillée, les cheveux au vent, marcher sur la terrasse
tout ça
de la pension en Italie.
Mais oui, mais on ne se débarrasse jamais de ces influences-là qu'on a prise avec bonheur dans le plus bel âge. On reste très imprégné de ça. Moi, elle m'accompagne tout le temps. Quand j'écris un livre, j'entends sa voix, je suis avec elle. C'est comme si elle me portait, quand elle me guidait, elle m'autorisait quelque chose. Et donc, je sais ce que je lui dois. Voilà, on est toujours forgé, construit par les rencontres, par les voix des autres. Et si je suis cet homme-là devant vous aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai été ce jeune homme de 17 ans dans cette librairie, prenant un livre avec d'une main tremblante et en me disant « c'est peut-être ma vie qui se joue là ».
N'écoutez jamais les écrivains qui prétendent raconter des secrets dans les livres, parce qu'en réalité, ils en gardent beaucoup plus que ce qu'ils racontent. Philippe Besson au micro de France Inter pour Le Grand Portrait ce matin, une pension en Italie est parue chez Julliard. C'était un plaisir de vous avoir.
Plaisir partagé, merci beaucoup.
Vous êtes ce soir à Strasbourg,
on le dit. À la librairie Kléber, absolument.
Voilà, et vous êtes samedi chez Isler à Metz.
Oui.
Vive les libraires.
Salut les libraires, absolument.
Zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou, mon Dieu qu'ils sont doux. Zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou, le bruit des sous le ciel du mois à deux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, ils ont rendez-vous. On entend partout. Oh, ouh, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Mon Dieu qu'ils sont doux.
À mon avis, vous l'aurez dans la tête toute la journée. C'était Gillian Hills et on fredonne ça depuis les années 60. Hein. Je vous rappelle qu'au départ, c'était Sophia Loren. Vous êtes toujours dans le magazine de la Grande Matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Charline Vanhoenacker,
bonjour.
À 9h45.
La France Inter. Il y a 15 ans, c'était tellement fun de faire de l'humour politique en France. Il y a des jours, je me demande ce que je fous dans ce pays. Mais je compte bien y rester et je vais me confier à vous à ce sujet.
Très bien, très bien. Daphné Burki prendra la suite avec la chanteuse Blue Samu. Là, il est 9h29, vous êtes sur France Inter et c'est le débat du jour.
D'actualité internationale maintenant avec le discours d'investiture de Donald Trump.
L'administration Trump.
Donald Trump est-il prêt à débrancher l'Europe des réseaux sociaux ?
L'ICE et ses pratiques sous le feu des critiques.
La police de l'immigration de Donald Trump.
I hope that's not the last bit of applause that I get, but...
J.D. Vance, tout juste 40 ans.
Tiens, on vient de passer une semaine d'actualité française sans un déferlement d'informations américaines, ou presque. Hein. On a eu quand même un peu de Marco Rubio et un tweet raciste de Trump sur le couple Obama. Mais enfin, beaucoup moins que d'habitude. En 2025, selon un baromètre de West France, Trump était la personne la plus médiatisée en France, bien plus que le président français, et ça c'est une première. Alors, les journalistes français en font-ils trop ? Sont-ils fascinés par les US ? Et est-ce au détriment de mille et un sujets français ou européens que du coup ils ne traitent pas assez.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en débattre avec Natacha Polony. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Essayiste, éditorialiste, directrice de la revue L'Audace et débattrice du samedi matin, évidemment, dans le grand face-à-face sur France Inter. Face à vous, Gilles Gressani. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de la revue Le Grand Continent. Je vais commencer avec vous, Natacha Polony. Hein. Vous constatez, vous déplorez, vous analysez, vous documentez depuis très longtemps cette omniprésence médiatique américaine. Ça se voit à la fois dans la fréquence de Trump, mais aussi des États-Unis, dans les journaux papier, les journaux télévisés, et aussi la manière dont les analystes en parlent.
Oui, je pense que le problème n'est pas tant le fait que les États-Unis occupent une grande place. Et je veux dire, depuis le deuxième mandat de Donald Trump, on ne peut pas ne pas parler de ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est gigantesque et parce que c'est le signe d'un basculement géopolitique qui pourtant était sous-jacent. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'espèce de sidération comme si c'était une nouveauté. Mais surtout, le problème, c'est que jusqu'à ce moment-là, la façon dont on parlait des États-Unis en France était une façon un peu étonnante. C'est-à-dire qu'on commentait les élections américaines comme si c'était des élections intérieures françaises. Avec cette espèce de vision presque morale. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué une incapacité, me semble-t-il, à penser le phénomène Trump. Parce que on le vivait comme une attaque des valeurs qui étaient les nôtres, alors qu'il fallait le lire comme une façon, une nécessité pour la France et pour l'Europe de penser leur place face aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ce phénomène Trump, c'est justement que enfin, on va pouvoir commencer à comprendre que le lien transatlantique n'est pas forcément un donné et que la vassalisation est un problème.
Alors, la vassalisation, parce que là, on pourrait parler de vassalisation de l'information en réalité, ou d'une forme de vassalisation médiatique. À votre avis, à quoi c'est dû ? Est-ce qu'il y a un pouvoir de fascination de Donald Trump lui-même ? Est-ce que c'est dû à l'extrême gravité ou au caractère crucial de ce qui se joue aux États-Unis ? Ou est-ce que c'est dû à une espèce de fascination, quand même, des journalistes français ? Une culture médiatique qui est très tournée vers les États-Unis pour les journalistes de notre génération.
Mais pas seulement pour les journalistes, en fait, pour les élites européennes au sens large. Et en effet, les journalistes ont baigné dans cette culture qui était une culture, justement, atlantiste, ouais, et qui relève d'ailleurs d'un soft power américain. Je veux dire, nous sommes tous imbibés de cette culture américaine, sans bien nous rendre compte que ça fait partie d'une stratégie de long terme des États-Unis pour imposer petit à petit leur modèle et surtout leurs intérêts. Et que c'est pour ça que changer de prisme et se poser la question des intérêts français et européens face à cette politique serait une nécessité journalistique et politique.
Gilles Gressani, vous travaillez beaucoup sur l'idéologie MAGA, entre autres, sur l'idéologie du clan et des différents clans qui entourent Donald Trump et des relais d'opinion, sur ce qui se joue à Washington depuis la réélection de Donald Trump. Pourquoi ?
Je pense que ce qui se passe avec Donald Trump, c'est quand même une rupture. Mais c'est une rupture très particulière, parce qu'il y a une dimension qui est métapolitique, il est en train de reconfigurer l'espace du disciple, de ce qu'on peut faire ou pas faire en politique. C'est un président des États-Unis qui, quelque part, nous a fait comprendre qu'un président des États-Unis peut faire beaucoup de choses, on l'avait un peu oublié. Et en même temps, il a une nature qui est presque infrapolitique. En fait, on disait tout à l'heure, intérieur, extérieur, est-ce que Donald Trump est devenu une figure de la politique française ?
Oui, c'est une question. Est-ce que Donald Trump est devenu une figure de l'actualité française et de la politique française ?
C'est beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, vous pouvez, c'est ça la force du spectacle qu'il a mis en place et qui fait partie de sa stratégie du pouvoir. C'est qu'au fond, ce n'est pas simplement un politique. Vous pouvez être un Français qui ne connaît pas le nom du Premier ministre, de la présidente de l'Assemblée nationale, et par contre, bien connaître Donald Trump, avoir Donald Trump constamment présent dans votre actualité, dans votre famille.
Donc c'est devenu une figure de nos imaginaires.
Parce que c'est une figure de nos écrans. C'est une figure qui est née, il faut se rappeler, il est né du spectacle. Et il a amené dans la politique la force du spectacle.
Sauf que là, on parle de journalisme, Gilles Gressani. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que les journalistes ne cèdent pas au spectacle ? Est-ce que les chaînes d'infos ne cèdent pas au spectacle ? Est-ce que la presse magazine ne cède pas au spectacle en mettant des couvertures en kiosque avec des Donald Trump dans tout les sens, parce que ça fait vendre, parce que ça déclenche quelque chose de réjouissant, entre guillemets,
chez le spectateur
français.
Je ne pense pas qu'on puisse parler de réjouissant, je pense que c'est vraiment le contraire. Si on regarde ce qui s'est passé, vous avez passé tout à l'heure le discours de J.D. Vance à Munich, oui, il y a un an. Les États-Unis, l'administration Trump ne peut plus tenir le même type de propos en Europe. Parce qu'en fait, le peuple européen, les peuples européens ont compris qu'il y avait une menace très profonde. Et ils l'ont compris d'une manière très, très sensible, très intime. En fait, Donald Trump est devenu une figure qui est presque effectivement une figure du spectacle, de la vie quotidienne, mais c'est une figure menaçante. Aujourd'hui, plus personne ou presque en Europe pense qu'en fait, ce que Donald Trump essaye de faire, c'est de donner plus de souveraineté à des mouvements alignés en Europe qui lui permettraient par la suite d'effectuer une révolution trumpiste. Année à année, Donald Trump a clivé les trumpistes et consolidé le reste.
D'où l'extrême importance de documenter, d'analyser, de comprendre, de fouiller, d'y accorder une place énorme.
Et dans les gens ont compris. Moi, je pense qu'il ne faut, il faut pas partir du présupposé que les gens ne comprennent pas la nature de la menace.
Natacha Polony. Tout dépend de la façon dont on en rend compte. Et en effet, la part du spectacle, et c'est toute la force de Donald Trump, est trop importante. Premier point, il me semble qu'il aurait peut-être fallu s'intéresser avant au fond. Moi, je me souviens des années 2016-2017, par exemple, l'affaire Alstom. L'affaire Alstom qui relevait de l'usage de l'extraterritorialité du droit américain. À ce moment-là, aucun, dans les journaux, il était très compliqué de faire passer ce sujet-là, qui était un sujet fondamental. On se souvient du rapport parlementaire de Pierre Lelouch et Karine Berger sur cette question-là. Ça n'intéressait pas grand monde et c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas le trumpisme actuel si on en reste à la notion, justement, à cette façon de brutaliser les rapports, ce spectacle permanent. Et quand on voit, vous parliez du discours de J.D. Vance à Munich, mais quand on voit celui de Marco Rubio et qu'on voit que Marco Rubio est applaudi
le week-end
debout,
dernier.
Alors même qu'au fond, il n'est pas si différent. C'est-à-dire qu'il y a une différence sur la façon d'évoquer l'Europe, mais la politique américaine derrière et la politique vis-à-vis de l'Europe va rester rigoureusement la même. Et
donc ce
il faut
que vous dites,
analyser
Polony, pour bien comprendre, ce que vous dites, c'est que non seulement on en parle beaucoup, sans doute beaucoup trop, qu'en plus évidemment on se démasque et qu'il y a une espèce de fascination des élites, etc., mais qu'en plus on cède au spectacle, on fait du clic sans réellement donner les clés, parce que donner les clés c'est beaucoup plus complexe que le spectacle.
C'est-à-dire que, premier point, en effet, ça se fait au détriment parfois de sujets qui vont être des sujets plus intérieurs, qui vont parler de la vie quotidienne des Français, qui vont parler de leurs difficultés. Et en plus, ça se fait trop souvent sans faire le lien entre cette vie quotidienne des Français et ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Or, il y a un lien. Et je prends un exemple. On est dans une phase où, depuis 2017, 1600 entreprises françaises ont été rachetées par des entreprises américaines. Mmh. Ça, c'est un élément absolument fondamental qui implique derrière toute la survie de notre modèle social, la survie des territoires, etc. Or, expliquer ça, ça nécessite de passer par la création monétaire aux États-Unis qui est gigantesque depuis 2008 et que Donald Trump est en train d'essayer d'amplifier. Il est en train de jouer à la baisse sur le dollar pour réindustrialiser. Tout ça, ce sont des mécanismes qu'il faut expliquer parce que ça a un impact direct sur notre économie, donc sur la vie des gens. Je préférerais qu'on commente un peu plus ça et un peu moins la moindre foucade de Donald Trump, qui certes raconte quelque chose de la vie politique, mais qui sont moins liés à notre survie à nous.
Gilles Grissani, quand vous aviez lancé Le Grand Continent, revue qui, justement, assume de proposer le fait de se décentrer. Je rappelle quand même qu'on est tous les produits, enfin, pas vous, Gilles Grissani, vous n'avez pas grandi en France, mais Natacha et moi, nous, on a vécu des décennies de journaux télévisés qui avaient quand même beaucoup de mal à parler d'autre chose que de sujets franco-français,
et on est bien d'accord. Et le travail que fait Le Grand Continent est absolument formidable, ne serait-ce que la traduction des grands discours qui sont prononcés un peu partout en Europe, aux États-Unis, c'est un travail essentiel.
Et alors, quand vous aviez lancé Le Grand Continent, vous disiez on connaît beaucoup mieux les dynamiques internes du Parti Socialiste Français que celles du Parti Communiste Chinois. Et vous disiez à l'époque, c'est un problème. Est-ce que là, on n'arrive pas à l'inverse? Est-ce que là, par exemple, le grand public ne se réveille pas cette semaine ahuri parce qu'il découvre sur qu'est-ce que c'est que la jeune garde, les groupuscules d'ultra-gauche, les groupuscules d'ultra-droite qui, en fait, sont mal connus du grand public alors qu'il commence à très très bien connaître toutes les constellations MAGA autour de J.D. Vance et de Donald Trump. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème?
Déjà, je dirais qu'il y a un lien entre ces deux réalités.
Oui, c'est
ils n'évoluent pas d'une manière totalement étanche. Et surtout, et plus profondément, en fait, Donald Trump utilise le spectacle pour changer le régime aux États-Unis. Ce qu'il est en train de faire, c'est utiliser cette énergie spectaculaire extrême qu'il est capable de propulser. C'est pas lui-même, mais c'est l'élite autour de lui, qui est très différente. Une partie qui vient de la Silicon Valley, une partie qui est plus politique. Ils sont en train d'utiliser concrètement cette énergie spectaculaire, un peu comme des panneaux solaires avec un soleil, si vous voulez, pour faire changer le système, faire changer le régime.
C'est intéressant. C'est-à-dire que ça n'est pas que du spectacle.
C'est un spectacle qui, contrairement au premier mandat, sert à changer réellement les choses. Le premier mandat, c'était un mandat chaotique dans lequel on ne savait pas quoi faire de cette énergie spectaculaire. Cette fois-ci, il y a des personnes qui savent comment faire. Et ça, ce n'est pas un petit sujet. Que les États-Unis puissent sortir de l'état de droit de la démocratie 250 années après la fondation des États-Unis n'est pas une mince affaire. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui n'aurait pas un effet très profond sur nos sociétés, nos systèmes et nos institutions. Donc, moi, je pense que c'est très important de comprendre la radicalité de ce projet, de mettre aussi à disposition de nos sociétés, qui sont extrêmement intelligentes, qui sont beaucoup moins facilement manipulables qu'on le pense, en fait, de leur expliquer que ce qui se passe n'est pas simplement un show, c'est pas The Apprentice at the White House, c'est une transformation profonde du régime américain et qui a des effets très profonds sur nous. Mm-hmm. Et évidemment, là-dessus, moi, je continue à insister sur ce point. Il y a aujourd'hui une prise de conscience européenne qui donne aussi une énergie incroyable. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande de résistance, de capacité de faire face. Et cette demande, elle est républicaine, elle est forte, elle est démocratique, elle est faite par des personnes qui pensent que la souveraineté personnelle est au centre de la politique. Et ça, c'est quelque chose de absolument, si vous voulez, positif dans un contexte totalement catastrophique. Et c'est sur ça, je pense, qu'on peut aujourd'hui
Natacha Polony.
Oui, mais justement, cette aspiration à la souveraineté, moi je ne peux que m'en réjouir, souveraineté individuelle, souveraineté populaire, c'est absolument fondamental, mais on n'y arrivera que si justement on sort de cette idée que Donald Trump est une espèce de surgissement qui vient de nulle part. Pendant le mandat Biden, alors même qu'on avait déjà eu Trump 1, nous étions retournés à un traitement médiatique qui était celui qui entrait dans le soft power américain, c'est-à-dire on a les gentils américains, les gentils occidentaux face au reste du monde, et tout va bien. Et donc, je pense que s'il faut se décentrer, il faut le faire en regardant les États-Unis, mais il faut le faire en regardant le reste du monde pour comprendre qu'il y a aujourd'hui une part immense du monde qui n'achète plus ce récit occidental du camp du bien. Et donc, si on n'en tient pas compte, on va se faire balayer. Et ensuite, il faut essayer de réfléchir à la manière de répondre à ce danger qu'incarne cette désoccidentalisation du monde et la dérive américaine. Et ça nécessite d'avoir des débats de fond sur notre propre vision de notre indépendance.
Des débats de fond, c'est ce qu'on essaye d'avoir dans un temps ramassé ici tous les matins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, c'est les retours qu'on a. Vous les poursuivez dans la voiture, en arrivant au travail, autour de la machine à café. Continuez d'en discuter. Est-ce qu'on parle trop, à votre avis, des États-Unis ou pas assez? Natacha Polony, Gilles Gressani, merci à tous les deux. Vous restez avec nous, le choix musical de la grande matinale aujourd'hui, c'est Gorillaz. Et puis après, il y a Charline, après il y a Daphné Burki.
Thank you.
Gorillaz, Damon Albarn est accompagné de la poétesse Kara Jackson et de la célèbre joueuse de sitar Anushka Shankar. C'est chic, non ?
Ouais.
Le prochain album de Gorillaz sort la semaine prochaine, le 27 février exactement. Il est 9h45, c'est l'heure de Charline Vanhoenacker dans le mag de la grande matinale. Charline, tous les matins, bah, vous avez carte blanche.
Et c'est une chance. Il y a une phrase qui m'est adressée tous les jours à la machine à café ou sur la ligne 8 du métro. Eh ben dis donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, t'as de quoi faire. Mmh. Oui, 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 il y a qu'à se baisser, je ramasse, je fais un petit tas et puis je le dépose devant le micro. Alors, ce matin, je vais répondre très franchement à cette question. Parce que ce week-end, je rentre en Belgique. Mais que pour le week-end, hein. Fausse joie pour certains. Et là-bas, on va me demander...
Stupéfaction pour d'autres.
Et là-bas, on va me demander, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en France ? Eh ben, politiquement, c'est l'hôpital de jour. Sauf que j'ai trop de respect pour les malades pour répondre tout ça. Alors la vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'entends parler d'antifascistes qui seraient devenus fascistes, de néo-nazis soudain pacifistes, et on est à deux doigts d'inventer le racisme feel-good ou l'antisémitisme de confort. Au point qu'hier, quand j'ai croisé des militants qui tractaient pour les municipales, de façon calme et pacifique, j'avais presque envie de les prendre dans mes bras. Mais merci de distribuer des tracts et pas des coups de latte. La politique avec des mots, ça m'a refait des trucs, quoi. Oh, dans ma boîte aux lettres, une profession de foi. Non, je vais pas la jeter, je vais la lire. Merci d'avoir imprimé votre programme sur une feuille de papier et pas sur ma joue avec une semelle de Rangers. Mm. Bon, après, j'ai vérifié qu'il tractait pas pour l'extrême droite quand même, parce que j'ai avalé un front républicain à la naissance, quoi. Et là, j'en suis qu'au stade où c'est des mots. Imaginez quand on fera de la politique avec des idées. Alors cette semaine, je me suis souvenue de pourquoi je suis venue travailler en France. Parce que je trouvais vos politiciens rigolos. À l'époque, la polarisation, c'était Royal contre Sarkozy. Et elle était au max de la violence quand elle disait « Non, je ne me calmerai pas, il y a des colères saines !» On n'avait jamais vu Giscard hurler sur Mitterrand, Raymond Barre foutre une droite à Pasqua. Il y avait juste Le Pen qui éructait tellement qu'il en bavait. Et à l'époque, on le laissait se polariser tout seul dans son coin. Il y avait aussi Édouard Balladur, le bon droitard, mais bon, il n'y pouvait rien, le pauvre. Il était resté confit dans son mépris bourgeois, et le seul jour où il a gueulé, c'était pour dire « Je vous demande de vous arrêter !» Ça avait calmé tout le monde. Hein. Oui, Sonia, j'ai des talents d'imitatrice aussi. Je suis encore pleine de surprises, ouais, vous savez. Ouais, ouais. Et moi, je débarquais naïvement à Paris en plaidant pour un cordon sanitaire contre l'extrême droite. Et après toutes ces années, enfin, le cordon sanitaire s'impose dans le débat, sauf que c'est Bardella qui décide de son périmètre. Jordan, avant de parler de cordon sanitaire, il devrait déjà se débarrasser du cordon ombilical qui le relie à Jean-Marie Le Pen. Alors avec Chirac, il y avait eu le bruit et l'odeur. Et puis avec Sarko, la banlieue en flamme. Mais la banlieue, on a compris que les politiques s'en foutaient pas mal et ça s'est jamais arrangé depuis. Mais il fallait le faire quand même pour mettre le feu à la banlieue avec un Karcher, je rappelle. Je sortais de l'école de journalisme et on parlait pas encore vraiment de presse d'opinion. Maintenant, la presse se polarise tellement que si on veut s'en extraire, il reste plus que le télé 7 jours. Finalement, parmi les victimes de tout ça, il y a aussi les faits. Et pour eux non plus, il n'y a pas une minute de silence. Au contraire, que du bruit. Alors, je suis pas loin d'en déduire que la bêtise politique en général est le plus lamentable risque de censure. Ma chronique, elle s'intitule « Charline explose les faits ». Alors j'en profite juste pour rappeler que pour continuer à rire des faits, il faut d'abord en prendre soin.
Charline Vanhoenacker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Il est 9h50, nous sommes dans le studio de la grande matinale de France Inter et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Bloussamou. Elle est chanteuse, musicienne, rappeuse. On va surtout dire que ma nouvelle tête est une voix. Elle vient de Belgique, mais elle est passée par le Portugal, elle parle plusieurs langues et en même temps, j'ai envie de vous dire qu'elle n'a pas le choix vu tout ce qu'elle a à nous raconter. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, Bloussamou. Mais c'est la première fois qu'elle sort un album qui s'appelle Note, avec un K entre parenthèses. Et je peux vous dire aussi que je ne vais certainement pas me risquer à la ranger dans un style de musique ou encore pire, dans une case, comme elle se balade comme ça avec brio. De toute façon, on ne fait jamais ça dans Nouvelle Tête. Chaque Nouvelle Tête est unique. Bonjour Bloussamou, bienvenue sur France Inter.
Salut, bonjour.
Comment vous vous sentez ce matin ?
Bah, avec un intro comme ça, on ne peut qu'être heureuse. Donc là, très
c'est
content.
C'est un grand jour, cet album, oui. Cet album qui sort, qui s'appelle donc, je le disais, Note, K entre parenthèses, N-O-T. Moi, je me suis permis d'interpréter des choses. J'entends deux choses. Déjà, note, ça veut dire le nœud. J'ai imaginé le nœud dans la gorge, le nœud dans le ventre. Et puis note, N-O-T, c'est le refus, c'est de dire non. Est-ce que ce K entre parenthèses, devant ce note, c'est un album pour défaire les nœuds, justement?
Waouh.
Il est profond votre album, il est très intense à écouter.
Ouais, en fait j'ai utilisé Note parce que j'aimais justement l'interprétation de plusieurs trucs. Donc j'aime beaucoup ce que t'as découvert déjà parce qu'il y a beaucoup de ça dedans. Le cas devant le Note, c'est vraiment le rejet de Note. Not être ok or not fine. I'm ok, I'm entre les parenthèses. But I'm also, je suis aussi le nœud. Donc il y a plein de trucs à défaire, à faire, à accepter.
Exactement.
Et à ne pas accepter.
Et ce que j'aime bien chez vous, on va entendre un premier son dans cet album qui est vraiment une aventure avec Your Girl. Blue Samu, elle revendique sa musique comme une thérapie. Comment la musique, elle peut sauver alors ?
Bah chez moi, elle me met face à des trucs que j'arrive pas à chercher quand je suis dans le moment ou dans l'émotion. Parfois, j'arrive pas à identifier ce qui se passe antérieurement. Et du coup, la musique, c'est un peu un outil pour découvrir les labyrinthes d'émotions qui se vivent dans notre corps, dans notre tête.
Et c'est ce qui arrive aussi jusqu'à nous, pour nous, les auditeurs. Et la musique de Blue Samu, elle est remplie de variations, elle est remplie de langues, anglais, portugais, français. Quand vous souffrez, vous pensez dans quelle langue? En vrai, c'est une quelle langue en premier?
Bah, ça dépend ce qui me fait souffrir.
Et quand vous tombez amoureuse, c'est en quelle langue dans votre tête?
Bah, ça dépend ce qui me fait tomber amoureuse. Parce que je suis déjà tombée amoureuse des gens francophones et donc du coup, ça commence à penser beaucoup en français. Donc vraiment, ça dépend de ce qu'il y a en face de moi.
Ok. Ouais. En tout cas, Blue Samu, pour ceux qui n'avaient pas encore entendu ce nom, c'est un nom en référence au bleu qu'elle adore, mais aussi au bleu de la mélancolie. Et puis Samu, c'est pour samouraï peut-être aussi, celui qui sert, celui qui défend. C'est une image de guerrière aussi. Qu'est-ce qu'il y a de guerrier en vous comme ça?
Bah, dès que je veux quelque chose, j'y vais et je m'arrête jamais. Et je pense que ça se voit parce que ça fait 8-9 ans que je fais de la musique et je m'arrête pas et juste j'y vais à fond des trucs auxquels je suis passionnée.
Ah oui, et c'est comme ça qu'il faut faire. Ce matin, sur France Inter, vous avez choisi de nous interpréter l'un de mes titres préférés au passage, mais c'est pas moi qui l'ai demandé, qui s'appelle Breakfast. Alors, ouais. Ça tombe bien, on est en pleine matinale, petit déjeuner, tout ça. C'est pas fait exprès non plus. En tout cas, le studio de France Inter est tout à vous.
Merci beaucoup. And I don't wanna eat my breakfast. I don't wanna get out the bed yet. I don't know where my motivation is. I just know that she's not here yet. So let me stay in my haze. Let me stay in my maze. So let me stay in my haze. Let me stay in my maze. I'm not hungry. Fuck it, I'm still sleepy. I know I've been in bed for 10 more, but my body still be feeling sore. And they gonna tell me that I need to move, but I'm feeling stuck like I'm super glued to everything that I used to want, and now seems impossible. And I know there are many reasons that I should be holding on. And I know that from the outside it looks like I'm incredibly strong. I don't wanna get out the bed yet. I don't know where my motivation is. I just know that she's not here yet. So let me stay in my haze. Let me stay in my maze. So let me stay in my haze. Let me stay in my maze.
C'est trop bon de se réveiller avec vous, Blue Samu.
Merci beaucoup. Le pour sentiment
les auditeurs
est partagé.
Qui peut-être se réveillent en ce moment même. Mais il y a aussi un autre sentiment qui prime dans cet album, je trouve. C'est un ras-le-bol. Ras-le-bol des bullshit jobs dans I Hate Myself. Ouais. Ras-le-bol des lendemains de soirée, de ce sentiment d'envahissement social. C'est un album animé par ce sentiment de ras-le-bol que vous avez envie de communiquer à ceux qui vous écoutent.
Oui. Il y a des parties ras-le-bol, il y a des parties vers la fin qui sont un peu dans la projection de l'avenir, mais beaucoup de « Ah, j'ai ces émotions, qu'est-ce que je fais avec ? J'ai pas envie de les enterrer, mais ah, est-ce qu'on peut exprimer quand en fait, pas envie aujourd'hui, pas envie de faire des trucs ?» Donc c'est un peu un mix de, comme vous avez dit tantôt, intense
oui.
et beaucoup de choses.
Intense, ouais. Oui, c'est générationnel. Qu'est-ce qu'on fait de nos frustrations ? Vous, vous les chantez et nous, on danse dessus. Je vous ai proposé une reprise pour parfaire votre univers et j'étais contente, vous m'avez proposé Amy Winehouse. Pourquoi elle ? Peut-être un point commun que vous avez ?
En fait, il y a un truc, je sais pas, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le grain de sa voix, la vulnérabilité, mais quand même badass girl, tu vois, genre Amy Winehouse, qui parlait des trucs qui étaient quand même hyper durs, mais qui se portaient aussi comme une guerrière. Donc, rest in peace, et elle m'a beaucoup marquée. Donc pour ça, non goûte.
Le studio de France Inter est à vous.
Merci beaucoup.
Downstairs in bar and her, your rolled up sleeves and your skull t-shirt. You said, why did you do it with him today? And left me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. And me and Stella and Fly. By the time I'm out the door, I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know I'm no good.
Ça, c'est très joli. Par qui êtes-vous accompagnée aujourd'hui?
Je suis accompagnée par Charles, donc Carlos Loverboy.
Je ne sais pas depuis quand il vous accompagne ou quand s'est fait la rencontre, mais j'ai retrouvé une phrase que vous avez déclarée, c'était en 2018. Vous étiez vraiment au tout début. Et vous vous étiez fait grandement remarquer par votre flow de rappeuse assez extraordinaire. Et vous déclariez que les rêves de Salomé, ça c'est votre vrai prénom, c'était être en bonne santé et heureuse, avoir une famille, être maman à 27 ans maximum. Et puis Blue Samou, elle disait à l'époque, conquérir le monde, avoir l'opportunité de faire ce qu'elle veut, mais surtout ce qu'elle aime. Bon, bah alors aujourd'hui, c'est mignon ces rêves.
C'est tellement mignon, ouais.
C'est si mignon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de ces rêves ?
Je suis en bonne santé, je suis très heureuse, je n'ai pas d'enfant à 27 ans, MDR. Petit changement de planning là-bas. Toujours conquérir le monde, c'est toujours sur le planning, on est bien en route, on fait de notre mieux. Peut-être on y arrive, on espère bien.
Toujours en mouvement, move.
So please, move. Eu vim cá pra trás ter o groove. I know what to do. Por isso que chamam azul. So please, move. Eu vim cá pra trás ter o groove. I know what to do.
Vous avez dit aussi, et ça je suis complètement d'accord avec vous, j'aimerais que quand on entend Blue Samou, on ne sache pas à quoi s'attendre. C'est quoi la règle numéro 1 de Blue Samou ?
En fait, si j'ai une règle, ça serait pas de règle. Voilà. Donc pas de restreinte, pas avoir peur d'expérimenter des trucs, pas avoir peur de faire un truc différent parce qu'on a fait ça et maintenant il faut qu'on fasse que ça et parce que c'est l'image. Donc juste être libre dans ce qu'on fait.
Ça c'est vrai, absolument pas formaté.
Oh love, forgive me, but I gotta leave my town, yeah my city ain't pretty, shit's tricky, maybe sticky. Yeah she begging please don't leave me, I cry as I say goodbye. Yeah I know I tried.
C'est un très bel album, il s'appelle Note, il termine sur cette chanson qui s'appelle Adeus. Avant de se dire à bientôt, est-ce que vous auriez une dédicace ce matin ?
C'est un peu marrant, mais j'aimerais bien dédicacer une grosse partie de mon bonheur, et il ne faut pas que vous blaguez de moi s'il vous plaît,
okay.
À Ellen Sano, c'est ma thérapeute. Elle m'a accompagnée pendant 4-5 ans et je lui dois beaucoup. Donc merci beaucoup Ellen Sanne pour toute votre aide.
Voilà. Dédicace à sa thérapeute ce matin et pourquoi pas. Elle s'appelle Blue Samou, vous pouvez la suivre sur tous ses réseaux sociaux. Et j'ajoute qu'elle sera en concert le 21 mars au Botanique à Bruxelles en Belgique ou encore le 26 mars au Point Éphémère si vous passez par la capitale. Merci.
Merci beaucoup.